Chapitre 9. La tempête.
Malta, dis-le, vous ne devriez pas vous promener ainsi, c'est presque l'heure de votre présentation.
Kefria paraissait à la fois exaspérée et amusée quand elle ajouta
« Dis-le, j'ai vu ta mère il y a quelques instants, et elle te cherchait près de la fontaine. Malta, viens avec moi. »
Elles s'étaient toutes les deux réfugiées derrière une colonne à l'entrée, et s'étaient mises à espionner les derniers arrivants. Arrête, elles en étaient d'accord, avait la plus jolie robe. Dommage qu'elle n'ait pas la silhouette accordée au décolleté choisi. Trita Redoff avait une coiffure démesurée, mais son éventail était exquis. Crayon Trentor avait grossi depuis qu'il courtisait Riel Krell, et il avait perdu sa mine mélancolique de poète. Comment avait-elle pu le trouver séduisant? Rod Cairn était toujours le beau ténébreux. Dilo avait presque défailli en le voyant, mais, chose curieuse, Malta s'était surprise à remarquer que ses épaules étaient loin d'être aussi larges que celles de Reine. Les gens du désert des pluies, voilés, encapuchonnés, s'approchaient et se mêlaient à leur père de Terrilville. Malta cherchait vainement Reine des yeux.
« Comment le reconnaîtras-tu quand il arrivera? Ils se ressemblent tous en mitouflés comme ça !»
avait dit Dilo. Avec une réplique digne de la jeune fille qu'elle avait été, Malta répondit en soupirant
« Oh, je le reconnaîtrai, n'aie crainte, mon cœur bondit toujours quand je le vois. »
Son amie l'avait regardé, des yeux écarquillés, puis elle avait pouffé de rire. Alors qu'elle chuchotait et espionnait ainsi, le sentiment de gêne qui les avait accompagnés au printemps passé avait disparu. Dilo avait affirmé à Malta qu'on ne trouvait plus aujourd'hui de tissu aussi somptueux que celui de sa robe et que la coupe soulignait la finesse de sa taille, tandis que Malta avait juré à son ami que ses chevilles n'étaient pas du tout épaisses et que, même si c'était le cas, personne ne les verrait ce soir de toute façon. Voici longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi gaie, aussi gamine. En suivant docilement sa mère, elle s'étonna d'avoir jamais désiré laisser tout cela derrière elle pour devenir une femme. Un paravent orné de fleurs servait d'alcôve aux jeunes filles qui devaient être présentées ce soir-là. Les pères qui allaient les escorter dans la salle pour la première danse s'agitaient à l'extérieur, tandis que les mamans anxieuses s'affairaient aux derniers arrangements de coiffure et d'ourlet. Elles avaient tiré au sort et la main du destin, semblait-il, l'avait désignée pour être la dernière. L'une après l'autre, on emmenait les jeunes filles. Malta eut l'impression de manquer d'air. En rectifiant quelques mèches, Kefria chuchota à sa fille
« Reine n'est pas encore arrivé. Je suppose qu'il a été retardé à cause du Kendri. Veux-tu que je demande à Davad de danser la première danse avec toi ?»
Elle regarda sa mère, horrifiée. Mais, à sa grande surprise, Kefria lui fit un sourire malicieux. « C'était pour te rappeler qu'il y a des situations pires que de faire tapisserie pendant la première danse. »
« J'attendrai la fin et je penserai à papa, » affirma Malta.
Les yeux brillants de larmes, Kefria tira sur le col de sa robe.
« Bon, maintenant du calme, garde la tête haute, fais attention à tes jupes et... Oh, c'est ton tour !»
Les derniers mots jaillirent comme un sanglot. Malta cligna les yeux, eux aussi remplis de larmes. À demi aveuglée, elle sortit de derrière le paravent pour prendre place dans le cercle de lumière en haut des marches.
Malta Vestrit, fille de Kyle Havre et de Kefria Vestrit, est présentée aux marchands de Terrilville et du désert des pluies. Malta Vestrit.
Elle fut furieuse un instant qu'on l'ait appelée par son nom de marchande. Croyait-il donc que son père n'était pas assez bien pour eux? Puis elle accepta le fait comme une coutume de Terrilville. Il serait fier d'elle. Il n'était pas là pour lui donner le bras et descendre les marches avec elle, mais elle avancerait en digne fille de son père. Tête haute, yeux baissés, elle plongea dans une solennelle révérence devant l'assemblée. En se redressant, elle leva les yeux. La foule lui parut innombrable, les marches trop nombreuses, trop raides. Elle crut qu'elle allait s'évanouir et dégringoler. Alors elle prit une profonde inspiration et commença sa lente descente. En bas, sur la piste de danse, les autres jeunes filles et leurs pères l'attendaient groupées en demi-cercle.
C'était son heure, son moment. Elle aurait voulu qu'il durât éternellement, et pourtant, quand elle parvint au bas des marches, elle se sentit soulagée. En rejoignant ses compagnes, elle leva les yeux pour inspecter la salle. Les gens de Terrilleville et du désert des pluies se montraient dans leurs plus beaux atours. Nombre d'entre eux n'avaient plus manifestement les apparences prospères des années passées. Néanmoins, la mine orgueilleuse, il souriait à cette dernière moisson de jeunes filles à marier. Reine n'était nulle part en vue. Bientôt, les musiciens commenceraient à jouer et les jeunes filles se mettraient à tourbillonner. Elle resterait seule. Cela correspond si parfaitement à sa vie, pensa-t-elle amèrement. Alors, l'impossible advint. Et ce fut pire que tout. Là-bas, sur l'estrade, coincé entre un pâle jeune homme et le chef du conseil, était assis Davad Restart. Ou plutôt, elle n'aurait que trop souhaité qu'il fût assis. Dressé à demi, penché au-dessus de la table, il agitait frénétiquement les doigts dans sa direction. Au comble de l'humiliation, elle leva la main et lui adressa un petit signe. Il ne renonça pas. Assuré qu'elle l'avait vu, il lui fit de grands gestes pour qu'elle traverse la piste de danse et s'approche de l'estrade. Malta mourait de honte. Elle aurait voulu s'évanouir. Le chef d'orchestre, qui attendait un signal de l'estrade, parut déconcerté. Enfin, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Le cauchemar ne s'achèverait pas tant qu'elle n'aurait pas quitté le cercle rassurant des autres jeunes filles et de leur papa pour traverser seule la vastitude de la piste vide, tant qu'elle ne se présenterait pas devant Davad pour entendre ses félicitations. Soit. Elle inspira profondément, jeta un coup d'œil vers sa grand-mère dont le visage avait pâli de stupéfaction, puis elle entama sa lente traversée de la piste de danse, sans se hâter. La précipitation serait plus incongrue encore. La tête haute, elle souleva ses jupes pour les faire flotter sur le parquet ciré. Elle se força à sourire comme si l'épisode faisait partie du déroulement normal de sa présentation. Elle fixa les yeux sur Davad et se souvint du cochon mort sur la portière de sa voiture. Elle réussit à conserver son sourire malgré le rugissement dans ses oreilles. Elle se retrouva devant l'estrade. À ce moment, elle comprit que le pâle jeune homme assis près de Davad devait être le gouverneur de Jamelia. Elle venait de subir une humiliation devant le gouverneur et deux de ses compagnes. Les élégantes de la cour la regardaient de haut d'un air condescendant. Maintenant, elle allait s'évanouir. Mais une sorte d'instinct prit le dessus. Elle plongea dans une lente révérence. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, elle entendit Davad déclarer avec enthousiasme « C'est la jeune fille dont je vous ai parlé, Malta Vestrit des marchands de Terrilleville. N'est-elle pas la plus jolie fleur que vous ayez jamais vue ?» Malta ne put se relever. Si elle se relevait maintenant, elle devrait les regarder. Elle était accroupie là, dans sa robe rapiécée et ses mules rapetassées, et...
« Vous n'avez pas exagéré, marchand Restart. Mais pourquoi cette fleur exquise n'est-elle pas accompagnée ?»
L'accent jamélien et le ton languide, le gouverneur en personne parlait d'elle. Le chef du conseil eut pitié d'elle et fit signe aux musiciens. Les premières notes hésitantes remplirent la salle. Derrière elle, des pères tout fiers menaient leur fille à la piste de danse. Soudain, ce fut la colère et non le chagrin qui s'empara de Malta. Elle se releva et croisa le regard indulgent du gouverneur. Elle répondit d'une voix claire « Je suis seule, gouverneur Magnadon, parce que mon père a été pris par les pirates que vos vaisseaux de patrouille chalcédiens n'ont rien fait pour arrêter. » Les gens sur l'estrade en restèrent bouche bée. Le gouverneur s'avisa de lui sourire.
« Je vois que chez cette petite, l'esprit le dispute à la beauté, »
fit-il remarquer. Alors que Malta rougissait, il ajouta
« Et voilà enfin un marchand de Terrilleville qui admet que les galères chalcédiennes sont seulement mes vaisseaux de patrouille. »
L'une des compagnes eut un petit gloussement guttural à ce trait d'esprit, mais le conseil n'eut pas l'air amusé. La colère l'emporta.
« Je vous le concède, seigneur. Si vous me concédez qu'ils sont inefficaces, Ils ont laissé ma famille privée à la fois de son navire et de mon père. »
Le gouverneur de Jamelia se leva. Il allait ordonner qu'on se saisisse d'elle et qu'on la tue.
Derrière elle, dans la salle, les musiciens continuaient à jouer et les couples tournoyaient. Elle attendait qu'il appelle les gardes, mais il déclara
« Eh bien, comme vous me reprochez l'absence de votre père, je ne vois qu'une façon de réparer. »
Elle n'en crut pas ses oreilles. Était-il possible que ce soit si simple ? Demandez et vous obtiendrez ? Le souffle coupé, elle murmura
« Vous allez donner l'ordre à vos vaisseaux d'aller le secourir ?»
Le rire sonore de Kozgo couvrit la musique.
« Certainement, c'est leur rôle, vous savez. Mais ce n'est pas le moment. En attendant, je vais faire de mon mieux pour corriger cette situation tragique en prenant sa place sur la piste de danse avec vous. »
Il se leva de l'estrade. L'une de ses compagnes eut l'air médusée, l'autre horrifiée.
Malta tourna les yeux vers Davad Restart, mais il ne lui fut d'aucun secours.
Radieux, il lui souriait avec tendresse et fierté. Il hocha vivement la tête en signe d'encouragement quand elle croisa son regard. Les visages des membres du conseil affichaient une prudente impassibilité. Que devait-elle faire?
Le gouverneur avait quitté son siège et descendait sur la piste. Il était plus grand qu'elle et très mince. Sa peau était d'une blancheur aristocratique, presque livide. Elle n'avait jamais vu un homme habillé de la sorte. Ses vêtements étaient moelleux et fluides, de teintes pastel. Ses culottes bleu pâle étaient serrées aux chevilles, au-dessus de chaussettes basses et souples. Les plis amples de sa chemise safran bouffaient autour de sa gorge et de ses épaules. Quand il s'approcha, elle sentit des odeurs inconnues, un parfum étrange, un relent de fumée tenace dans son haleine.
Alors l'homme le plus puissant du monde s'inclina devant elle et lui tendit la main.
Elle était pétrifiée.
« C'est bien, Malta, vous pouvez danser avec lui !»
déclara avec bonhomie Davad Restart. Il gloussa vers les autres sur l'estrade.
« C'est une petite si timide, si protégée. Elle ose à peine lui toucher la main. »
Ses paroles l'aiguillonnèrent. Elle avait froid et se sentait des picotements par tout le corps lorsqu'elle mit la main dans la sienne, qui était très douce.
À la stupéfaction de sa partenaire, il posa l'autre main sur ses hanches et l'attira à lui.
« C'est ainsi qu'on danse sur ce rythme à Jamelia, »
dit-il. Son haleine était chaude sur le visage renversé de Malta. Ils étaient si proches l'un de l'autre qu'ils devaient sûrement entendre les battements de son cœur. Il l'entraîna dans la danse.
Ses premiers pas furent maladroits, vacillants. Elle ne suivait pas la mesure.
Puis, saisie par la musique, elle évolua avec autant d'aisance que si elle dansait avec Rack dans le petit salon. Les autres couples, la salle illuminée, la musique même s'éteignirent autour d'eux. Il n'existait plus que cet homme et le mouvement tandis que leur corps s'accordait au rythme. Pour le voir, elle dut lever les yeux. Il lui sourit.
Vous êtes si petite, on dirait une enfant, ou une ravissante poupée. Vos cheveux ont un parfum de fleurs.
Elle ne sut que répondre à ses compliments. Elle ne songea pas même à le remercier. Toute trace de coquetterie avait disparu en elle. Elle demanda malgré elle,
vous allez vraiment envoyer vos vaisseaux secourir mon père ?
Il haussa son fin sourcil.
« Certainement. Pourquoi ne le ferais-je pas ?»
Elle baissa les yeux puis les ferma. La musique et le corps qui guidaient le sien, elle n'avait besoin de rien d'autre.
« Cela me semble trop facile. »
Elle secoua la tête imperceptiblement.
« Après tout ce que nous avons enduré ?»
Il eut un léger rire, aigu, féminin.
« Dites-moi, petit oiseau, avez-vous toujours vécu à Terrilleville ?»«
Bien sûr. »
« Bien, alors dites-moi, que connaissez-vous du monde ?»
Soudain, il l'attira tout contre lui. Les seins de Malta frôlaient sa poitrine. Le souffle coupé, elle se recula et manqua un pas. Il rattrapa le rythme facilement et continua à la faire tourner.
« Vous êtes timide, petit oiseau ? »
demanda-t-il joyeusement en resserrant la main presque violemment. La musique s'était tue. Il la lâcha. Quand elle regarda autour d'elle, elle entendit un bruit de pas précipités. Tous les regards étaient tournés vers eux, sans vraiment les fixer. Il la salua avec une grâce appuyée. Alors qu'elle faisait la révérence, il lui souffla.
« Peut-être devrions-nous parler un peu plus tard du sauvetage de votre père ? Peut-être pourrez-vous mieux me faire comprendre l'importance que vous y accordez ?»
Elle ne put se relever. Ses paroles étaient-elles une menace ? Parce qu'elle s'était écartée de lui, il n'enverrait pas de navire secourir son père ? Elle aurait voulu lui crier d'attendre, mais il s'était détourné. Une marchande de Terrilleville et sa fille avaient déjà capté son attention. Derrière elle, les musiciens entamaient une nouvelle danse. Elle finit par se redresser. Elle eut l'impression de n'avoir plus d'air dans les poumons. Il fallait qu'elle quitte la piste. Comme une aveugle, elle se fraya un chemin à travers les couples de danseurs. Elle entrevit Sir Wintrell. Il paraissait se diriger vers elle, mais lui parler maintenant était au-dessus de ses forces. Elle pressa le pas, cherchant des yeux sa mère, sa grand-mère et même son petit frère. Elle ne désirait qu'une chose, se réfugier quelque part, le temps de se ressaisir. Venait-elle de gâcher la seule chance de salut de son père ? S'était-elle ridiculisée aux yeux de tout Terrilleville ? Quelqu'un lui effleura le bras et elle sursauta. Elle se recula, se retourna. Il était voilé, encapuchonné et ganté comme tous les habitants du désert des pluies, mais elle sut qu'il s'agissait de Rain. Lui seul était capable de conférer une telle élégance à l'accoutrement mystérieux du désert des pluies. Son voile était en dentelle noire, mais des fentes argentées et dorées indiquaient l'emplacement de ses yeux. Le capuchon qui lui couvrait les cheveux et la nuque était retenu par une cravate de soie blanche chatoyante, nouée avec recherche. Sa chemise blanche et ses culottes noires révélaient les formes de son corps autant que le voile et le capuchon dissimulaient les traits de son visage. La largeur de ses épaules et de sa poitrine était soulignée par une taille bien prise et des hanches étroites. Ses légères bottines de danse, assorties à son voile, étaient filigranées d'or et d'argent. Il lui tendait un verre de vin. Il dit doucement «
Vous êtes pâle comme la neige. Vous avez besoin d'un verre ?»«
Je veux ma mère !»
répondit-elle sottement.
Elle aggrava son cas en répétant désespérément
« Je veux ma mère !»
L'attitude de Rain se raidit. « Que vous a-t-il dit ? Vous a-t-il offensé ?»«
Non, non, c'est seulement que je veux ma mère, tout de suite. »«
Bien sûr. » Avec la plus grande désinvolture, il tapota sur l'épaule d'un marchand qui passait et lui tendit le verre de vin. Puis il se tourna vers Malta. « Par ici. »
Il ne lui offrit pas son bras ni ne chercha à la toucher. Sentait-il que, à ce moment-là, elle ne l'aurait pas supporté ? Il fit un geste gracieux de sa main gantée et marcha d'un pas léger devant elle en écartant les gens sur son passage. On les suivait des yeux avec curiosité. Kefria s'avança rapidement à travers la foule comme si elle avait cherché sa fille.
« Oh, Malta !»
s'exclama-t-elle à voix basse. Sa fille se raidit en attente de l'inévitable semonce, mais Kefria reprit
« J'étais si inquiète, mais tu t'es merveilleusement comportée. « À quoi pensait Davad ? J'ai essayé de te rejoindre après la danse, et il a osé me prendre par le bras et me conseiller de te faire venir pour qu'il puisse t'arranger une nouvelle danse avec le gouverneur. » Malta était toute tremblante. « Mère, il a dit qu'il enverrait des navires pour secourir papa, mais alors... »
La voix lui manqua, et subitement elle regretta d'avoir parlé. Pourquoi mettre sa mère au courant ? La décision lui appartenait à elle seule. L'importance qu'elle accordait au salut de son père ? Elle comprenait parfaitement le sous-entendu. Impossible de se méprendre. C'était à elle de choisir. S'il fallait qu'elle seule doive en payer le prix, la décision ne lui appartenait-elle pas à elle seule ?
« Et vous l'avez cru ?»
intervint Rain, incrédule.
« Malta, il se jouait de vous.
Comment a-t-il pu lancer cette idée comme s'il s'agissait d'une galanterie ?
Cet homme n'a pas le moindre scrupule, aucun sens moral. Vous n'êtes qu'une enfant et il vous tourmente ainsi. Je devrais le tuer. »
« Je ne suis pas une enfant, »
affirma Malta froidement. «
Les enfants n'ont pas à prendre ce genre de décision.
Si vous me considérez comme une enfant, votre sens moral vous permet-il de me faire la cour ?
Elle savait à peine ce qu'elle disait. Elle avait besoin de se retrouver seule quelque part pour examiner la proposition du gouverneur et le prix qu'elle aurait à payer. Elle lança sans réfléchir.
« Ou bien vous voulez montrer que je vous appartiens, la première fois qu'un autre me témoigne de l'intérêt ?»
Sa mère reprit son souffle. Ses yeux allaient de Malta à Rain.
« Excusez-moi, »
murmura-t-elle et elle s'éclipsa, les laissant à leur querelle d'amoureux. Malta remarqua à peine son départ. Tout à l'heure, elle avait ardemment désiré sa présence. À présent, elle savait que sa mère ne lui serait d'aucun secours dans cette affaire. Rain recula d'un demi-pas. Le silence vibra entre eux comme une corde d'arc. Subitement, il esquissa un salut.
« Je vous demande pardon, Malta Vestrit. »
Elle l'entendit déglutir.
« Vous êtes une femme, non une enfant. Mais vous êtes une femme nouvellement introduite dans la société. Vous ignorez les manières des hommes vils. Je ne songeais qu'à vous protéger. »
Il tourna son visage voilé pour regarder les couples qui exécutaient les figures d'une contredanse. Il baissa la voix.
« Je sais que vous pensez avant tout à sauver votre père. » C'est ce qui vous rend vulnérable. C'était cruel de sa part de vous proposer son aide.
Curieux? Je pensais que c'était cruel de votre part à vous de me refuser votre aide quand je vous l'ai demandé. Je vois maintenant que vous aviez l'intention d'être aimable.
Elle perçut elle-même le dédain glacial dans sa voix.
C'est ce que fait mon père quand il se dispute avec ma mère,
pensa-t-elle.
Il retourne contre elle ce qu'elle vient de dire.
Une part d'elle-même voulait faire cesser la querelle, mais elle ne savait pas comment. Elle avait besoin de réfléchir, et les événements qui se succédaient ne lui en laissaient pas le temps. L'unique bal de présentation qu'elle vivrait jamais tourbillonnait autour d'elle. Grâce à elle, le gouverneur allait peut-être secourir son père, et au lieu de danser avec son amoureux, suivi par les regards envieux des autres filles, elle était là à se quereller sottement avec lui. Ce n'était pas juste.
« Je n'avais pas l'intention d'être aimable. J'avais l'intention d'être honnête, » dit-il à mi-voix. La musique s'était tue. Les danseurs quittaient la piste où se cherchaient de nouveaux partenaires. Les paroles de Rain tombèrent dans le silence, assez audibles pour que quelques têtes se tournent vers eux.
Malta sentit qu'il était aussi embarrassé qu'elle d'avoir attiré l'attention. Elle plaqua un petit sourire sur son visage comme pour répondre à un mot d'esprit, mais ses joues étaient brûlantes et rigides. À ce moment-là, quelqu'un s'éclaircit la gorge derrière elle. Elle tourna la tête. Serwin Trell s'inclina profondément.
« M'accorderez-vous la prochaine danse ?»
Il y avait une pointe de défi dans sa voix, comme s'il s'adressait à Rain plutôt qu'à elle. Ce dernier releva le gant.
« Malta Vestrit et moi sommes en conversation, »
fit-il observer sur un ton d'une inquiétante affabilité.
« Je vois, »
rétorqua Serwin d'une voix également maîtrisée.
« Je pensais qu'elle préférerait peut-être danser avec moi. »
Les premières mesures de la musique filtrèrent dans la salle. Les gens les dévisageaient. Sans lui demander son avis, Rain prit la main de Malta.
« Nous allions justement danser, » dit-il à Serwin. De son autre main, il enlaça la taille de la jeune fille, et aussi aisément que s'il soulevait une enfant, il l'entraîna dans un tourbillon.
C'était une mélodie animée. Elle comprit qu'elle pouvait danser ou bien trébucher maladroitement en cherchant à se dégager de son étreinte. Elle opta pour la danse. D'un doigt, elle pinça ses jupes pour dévoiler ses pieds légers, puis se lança délibérément et avec entrain dans des figures enjolivées. Il releva le défi sans manquer une mesure, et bientôt il fallut à Malta toute sa concentration pour rivaliser avec lui. Elle eut brièvement conscience de faire un effort, mais bientôt ils dansèrent comme s'ils ne faisaient qu'un. Les couples qui leur lançaient des coups d'œil furtifs s'écartèrent soudain pour leur céder la place. Elle entrevit fugacement sa grand-mère alors que Rain la faisait tournoyer. La vieille dame lui souriait d'un air féroce.
Elle se prit elle-même à sourire, d'un plaisir sans mélange. Ses jupes flottaient autour d'elle tandis qu'il la faisait tourner sur des pas compliqués. Sur sa taille, la main était forte et ferme. Elle perçut une senteur de musc et se demanda s'il s'agissait d'un parfum ou de l'odeur naturelle de sa peau. Cela n'était pas déplaisant. Elle avait vaguement conscience des regards admiratifs des spectateurs, mais Reine demeurait le centre de ses pensées. Presque malgré elle, elle resserra les doigts sur les siens et il lui répondit en raffermissant son étreinte. Le cœur de Malta bondit brusquement. Malta. Il avait seulement prononcé son nom. Ce n'était pas une excuse, mais l'affirmation de ce qu'il ressentait pour elle. Une vague d'émotion la submergea. Elle comprit alors que l'incident avec le gouverneur était complètement indépendant de ce qui existait entre Rain et elle. Elle avait eu tort de le mentionner devant lui. Cela n'avait aucun rapport avec lui ni avec leur relation. Elle aurait dû se douter qu'il en serait contrarié. En cet instant présent, ils ne devaient penser à rien d'autre qu'à eux-mêmes. C'était le langage de cette danse. Durant ce laps de temps, ils évoluaient en parfaite harmonie et ils se comprenaient. Cela, elle devait le savourer.
Rain, répondit-elle en lui souriant.
La dispute était balayée par leurs pieds en mouvement, piétinés et oubliés. La musique s'acheva trop tôt et il la fit tournoyer gracieusement sur la dernière mesure, puis la saisit brièvement dans ses bras pour l'arrêter.
Elle eut le souffle coupé. « Quand nous dansons ainsi ensemble, » murmura-t-elle timidement, « j'ai presque l'impression que nous sommes destinés à ne faire qu'un pour toujours. »
Il la tint un peu plus longtemps dans ses bras qu'il n'était strictement convenable. Le cœur de Malta battit à tout rompre. Elle ne voyait pas ses yeux, mais elle savait qu'il la regardait. Il déclara doucement, « Tout ce que vous avez à faire, ma chérie, c'est de me laisser guider vos pas, » lui dit-il avec indulgence. Ces paroles condescendantes crevèrent la bulle qu'il avait créée autour d'eux. Elle se dégagea pour lui faire une révérence très cérémonieuse.
« Je vous remercie pour cette danse, monsieur, »
lui dit-elle froidement.
« Vous m'excuserez maintenant. »
En se relevant, elle lui adressa de la tête un petit signe d'adieu. Elle se tourna et s'en fut d'un pas assuré. Du coin de l'œil, elle le vit commencer à la suivre, mais un homme du désert des pluies le rejoignit vivement et l'attrapa au passage par le bras. Apparemment, Rain était plus intéressé par cet homme qu'empressé à la suivre. Il s'arrêta, se tourna vers l'autre. Parfait. Elle poursuivit son chemin. Elle était si agitée qu'elle ne pouvait rester en place. Pourquoi fallait-il qu'il gâche toujours tout ? Pourquoi fallait-il qu'il lui parle de manière aussi condescendante ? Elle ne voyait personne de connaissance. Ni mère, ni grand-mère, ni amie, pas même Davad Restart. Elle aperçut le gouverneur entouré d'un groupe de dames de Terrilville. Elle ne pouvait tout de même pas s'imposer dans ce cercle. Les musiciens avaient entamé une nouvelle danse. Elle se dirigea vers une table chargée de verres de vin. Il aurait été plus convenable d'attendre qu'un jeune homme lui apportât un rafraîchissement. C'était soudain si embarrassant de se retrouver seule. Elle se figura que tous les yeux de l'assemblée suivaient ses déambulations solitaires. C'est alors que Serwin vint se placer devant elle. Elle dut s'arrêter net pour ne pas le bousculer. « Peut-être pouvons-nous danser maintenant ? » demanda-t-il doucement. Elle hésita. Rain serait furieux, jaloux peut-être. Mais elle n'avait plus envie désormais de jouer à ses petits jeux. C'était déjà assez compliqué. Comme si Serwin sentait sa réserve, il hocha la tête d'un air sombre en direction de la piste. Il ne lui a pas fallu longtemps pour inviter une nouvelle partenaire. Incrédule, elle se tourna. Son cœur se figea dans sa poitrine. Rain tenait dans ses bras une des compagnes du gouverneur et évoluait gracieusement sur une danse langoureuse. Il n'avait même pas choisi la plus belle. C'était la femme sans bijoux dans la robe crème qu'il serrait contre lui et qu'il écoutait si attentivement.
« Non, » chuchota Serwin, « ne faites pas ces yeux-là. Relevez la tête et regardez-moi. Souriez et allons-y. »
Avec un petit sourire crispé, elle lui donna la main. Il l'enlaça et ils gagnèrent la piste de danse avec toute la grâce de deux chiens qui se tournent autour. Après s'être mesurée à Reine, elle trouva les pas de Serwin maladroits. Elle avait l'impression de tituber. Il paraissait tout à fait inconscient de sa gaucherie. Il lui souriait.
« Enfin, vous êtes dans mes bras, » dit-il doucement. « Je croyais que mon rêve ne se réaliserait jamais. Et pourtant vous voilà, devenue femme. Et cet idiot du désert des pluies qui vous a écarté pour quelqu'un à qui il ne peut même pas espérer prétendre. Oh, ma Malta, vos cheveux brillent tant que j'en suis éblouie. Leur parfum m'enivre. Je ne pourrais jamais rêver posséder des trésors plus précieux que votre petite main dans la mienne. »
Les compliments pleuvaient. Elle serra les dents dans un sourire et les souffrit avec patience. Elle essayait de ne pas regarder Reine qui dansait avec l'autre femme. Avec son voile, il était difficile d'en être sûr, mais il semblait totalement captivé. Il ne tourna pas une fois la tête dans sa direction. Elle l'avait perdu. Aussi simplement, aussi rapidement. Un mot aigre de trop, et il était parti. Elle avait l'impression qu'on lui avait arraché le cœur de la poitrine et qu'à la place il n'y avait plus que du vide. Sottise! Elle n'avait même pas encore décidé si elle l'aimait ou non. Alors il ne pouvait pas s'agir de cela. Non. C'est lui qui avait prétendu l'aimer, et elle l'avait cru sottement. À l'évidence, il lui avait menti. Ce qu'elle éprouvait n'était qu'une blessure d'amour propre, rien de plus. Elle était furieuse parce qu'il l'avait humiliée. Pourquoi s'en soucier? Elle dansait à présent dans les bras d'un autre, un homme très beau qui manifestement était fou d'elle. Elle n'avait pas besoin de Reine. Elle n'avait même jamais vu son visage. Comment pourrait-elle l'aimer? Elle se sentit soudain étourdie en apercevant Reine qui penchait la tête pour parler plus discrètement à la compagne. L'air grave, la femme répondit longuement. Malta faillit trébucher, et Serwin resserra son étreinte. Il débitait des bêtises sur ses lèvres roses. Au nom de ça, que voulait-il qu'elle réplique à de pareilles niaiseries? Devait-elle le complimenter sur ses dents ou sur la coupe de sa chemise? Elle s'entendit dire
« Vous êtes très beau ce soir, Serwin. Votre famille doit être fière de vous. »
Il sourit comme si elle l'avait porté au nu.
« Ces mots dans votre bouche ont une telle importance pour moi, » affirma-t-il.
La musique se tut. Il la lâcha à regret et elle recula. Traîtreusement, elle chercha Reine des yeux. Il s'inclinait bas sur la main de la compagne, puis fit un geste en direction des portes qui donnaient sur le jardin éclairé de lanternes et les allées du conseil. Elle chercha à durcir son cœur, à se raccrocher à l'insensibilité, mais elle n'éprouvait que désolation.
« Puis-je vous apporter du vin ?»
lui demanda Serwin.
« S'il vous plaît, j'aimerais m'asseoir un peu. »«
Bien sûr. »
Il lui offrit le bras et l'accompagna. Quand Grag l'avait arrêté, Reine avait fait volte-face et failli le heurter.
« Pas maintenant, laissez-moi »
protesta-t-il. Malta s'éloignait de lui. Ce blanc bec de trêle fendait précipitamment la foule pour la rejoindre. Ce n'était pas le moment de rester bavardé sur la piste de danse. Mais Grag lui serra le bras plus fort et lui dit à voix basse et pressante
« Une des compagnes du gouverneur vient de danser avec moi. »
« C'est merveilleux. J'espère que c'était la jolie. Maintenant, laissez-moi. »
Il se dévissa le cou, cherchant à suivre la progression de Malta à travers la foule.
« Non, il faut que vous l'invitiez pour la prochaine danse. Je veux que vous entendiez vous-même ce qu'elle vient de me dire. » Après, venez me retrouver dans le jardin, près du chêne de marais, dans l'allée est. Il faut décider. Qui mettre au courant? Que faire?
La voix de Grag était tendue. Reine n'avait aucune envie de l'écouter maintenant. Il risqua la légèreté.
Et il faut d'abord que je parle à Malta, ensuite nous discuterons des entrepôts qui brûlent.
Grag ne lâcha pas.
Ce n'est pas une plaisanterie, Reine. Cela ne peut pas attendre.
Je crains que ce ne soit déjà trop tard. Il y a un complot contre le gouverneur.
Allez donc vous joindre aux conspirateurs,
conseilla Rain, irrité. Comment songerait-il à la politique en cet instant? Malta était blessé. Il pouvait presque ressentir sa peine, c'était si intense. Il l'avait blessée et maintenant elle errait parmi la foule comme un chaton perdu. Il fallait qu'il lui parle, elle était tellement vulnérable.
Les Chalcédiens et certains de ses nobles projettent de le tuer. C'est Terrilville qui sera accusé. Ils vont nous raser avec la bénédiction de Jamélia. Je vous en prie, Reine, cela ne peut pas attendre. Allez l'inviter à danser. Il faut que je trouve ma mère et mes sœurs. Je vais leur demander de prévenir des marchands qu'on se rejoigne dehors. Allez-y. C'est celle en robe beige, là-bas, sur l'estrade. Je vous en prie.
Malta avait disparu. Reine décocha à Grag un regard qu'il parut percevoir même à travers son voile. Le fils de marchand lui lâcha le bras, haussa les épaules, puis secoua la tête d'un air furieux. Il s'en fut précipitamment. Lentement, le cœur serré, Reine se retourna et se fraya un passage vers la compagne du gouverneur. Elle le guettait. Alors qu'il s'approchait, elle fit une remarque spirituelle à sa voisine, hocha la tête et commença à s'éloigner. Il la retint au passage et lui adressa un petit salut.
« Voudriez-vous m'accorder cette danse, compagne ?»«
Certainement, avec grand plaisir, » répondit-elle cérémonieusement.
Elle leva une main qu'il saisit dans ses doigts gantés. Les premières mesures se firent entendre. C'était une mélodie lente, une danse traditionnellement réservée aux amoureux. Elle fournissait aux couples jeunes et vieux le prétexte pour évoluer tranquillement l'un contre l'autre sur une musique rêveuse. Il aurait pu prendre Malta dans ses bras, maintenant, apaiser son chagrin et le sien. Mais il se retrouvait avec une femme de Jamélia presque aussi grande que lui. Elle faisait une excellente partenaire, gracieuse et légère, mais d'une certaine façon, c'était encore pire. Il attendit qu'elle commence à parler.
« Votre cousin vous a-t-il transmis mon avertissement ?»
demanda-t-elle enfin. Sa franchise le surprit. Il s'efforça à la réserve. « Pas vraiment. Il a simplement dit que vous lui aviez appris quelque chose d'intéressant, quelque chose dont je devais moi-même prendre connaissance. » Il mit dans sa voix une perplexité soucieuse, rien de plus. Elle émit un petit grognement d'impatience.
« Je crains bien que nous n'ayons pas le temps de marcher sur des œufs. Il m'est venu à l'idée, pendant le trajet jusqu'ici ce soir, que ce serait le moment idéal pour mettre leur plan à exécution. Vous voilà tous rassemblés, marchands de Terrilville et du désert des pluies, avec le gouverneur parmi vous. Tout le monde connaît l'hostilité de Terrilville contre les nouveaux marchands et la politique du gouverneur. Quelle meilleure occasion pour fomenter une émeute! Dans la confusion, le gouverneur et ses compagnes seront assassinés. Alors les Chalcédiens peuvent débarquer animés d'une juste colère pour vous punir tous. »
Fâcheux petit tableau, mais à qui cela profite-t-il? Pourquoi? Demanda-t-il sceptique.
Cela profite à ceux qui se sont unis pour comploter. Les nobles Jaméliens en ont assez de ce gamin jouisseur qui n'entend rien au gouvernement, qui ne sait que dilapider le trésor. Chalced fait de Terrilville sa province afin de la piller à son aise. Ils revendiquent depuis longtemps ce territoire des rivages maudits comme leur appartenant de droit.
Il serait stupide de la part de Jamélia de céder Terrilville à Chalced. Est-il une autre province qui procure autant de richesses au gouverneur?
Peut-être pense-t-il qu'il vaut mieux céder Terrilville comme part d'un marché plutôt que l'abandonner aux Chalcédiens comme prise de guerre. Chalced devient plus forte et plus belliqueuse. Des dissensions internes et des attaquants du Nord ont paralysé les six duchés pendant des années. Ce royaume gardait Chalced occupé. Depuis les guerres des pirates rouges, les six duchés se sont employés à reconstruire. Chalced est devenue une nation puissante, riche d'esclaves et d'ambition. Il pousse vers le Nord en provoquant des escarmouches frontalières, mais il regarde aussi vers le Sud, vers Terrilville et son commerce florissant, et les terres du désert des pluies.
« Les terres ?»
fit Reine avec un reniflement de dédain.
« Il y en a si peu !»
Il s'interrompit brusquement en se rappelant à qui il parlait.
« Ce sont des imbéciles.
acheva-t-il laconiquement.
Sur le navire, en venant ici.
Durant un instant, la femme parut avoir peine à parler, comme si elle manquait de souffle.
J'ai été prisonnière dans la chambre du capitaine.
Il attendit, puis se pencha pour saisir ces paroles prononcées à voix basse.
Il y avait des cartes dans sa chambre. Le port de Terrilville, l'embouchure du fleuve du désert des pluies. Pourquoi détiendrait-il ces cartes s'il n'avait pas l'intention de s'en servir?
Le fleuve du désert des pluies se protège lui-même, déclara hardiment Rain. Nous n'avons rien à craindre. Les secrets du fleuve ne sont connus que de nous seuls.
Mais ce soir, vous êtes nombreux ici. Des représentants de nombreuses familles, à ce qu'il paraît. S'ils étaient pris en otage durant le pillage de Terrilville, pouvez-vous être sûr qu'aucun d'entre eux ne révélerait ses secrets?
Sa logique était implacable. Soudain, de petites contradictions prirent du sens.
Pourquoi laisser passer le Kendry à travers le blocus?
Ils ont certainement des alliés parmi les nouveaux marchands ici, dit-il à mi-voix, songeant à tous les gens qui venaient de débarquer. Des gens dont les liens avec le commerce des esclaves en Calcède sont aussi étroits ou plus étroits que leurs liens avec Jamelia. Des gens qui ont vécu parmi nous en ont appris suffisamment sur nos coutumes pour savoir que les marchands de Terrilville et du désert des pluies seraient rassemblés ici ce soir.
Si j'étais vous, je n'écarterais pas la possibilité d'accointance avec les premiers marchands de Terrilville,
fit-elle remarquer à mi-voix.
Un frisson glacé de suspicion le parcourut. Davad Restart, bien sûr.
Si vous étiez au fait de ce complot, pourquoi être venu à Terrilville? Lui demanda-t-il.
Évidemment, si j'avais su, je ne serais pas venu, rétorqua-t-elle. Ce n'est que ce soir que j'ai rassemblé assez d'éléments pour saisir le tableau en son entier. Je vous dis tout cela non seulement parce que je n'ai pas envie de mourir, mais parce que je ne veux pas voir la chute de Terrilville. Cette ville a été depuis toujours au centre de mes études. J'ai toujours eu envie de venir ici. C'est la ville de mes rêves. Alors j'ai fermé les yeux sur ce qui se tramait, j'ai supplié le gouverneur de me laisser venir. Maintenant que je suis ici, je ne veux pas être témoin de son agonie, pas plus que je n'ai envie de mourir ici avant d'avoir pleinement pénétré toutes ces merveilles.
Que suggérez-vous que nous fassions?
Les gagner de vitesse. Prenez en otage le gouverneur et ses compagnes, oui, mais veillez à notre sécurité. Vivant, il est une monnaie d'échange. Mort, il est l'étincelle qui allumera le feu. Les nobles de Jamelia ne peuvent pas tous être impliqués là-dedans. Envoyez un message là-bas pour alerter ceux qui sont fidèles au gouverneur. Informez-les de ce qui se trame ici. Ils monteront une opération de secours si vous promettez de leur rendre Kosgo indemne. Il y aura une guerre avec Calcède, mais en fin de compte, il y a toujours une guerre avec Calcède. Employez le temps que je vous ai épargné en vous avertissant à fortifier la ville du mieux possible. Faites des provisions. Cachez vos enfants et vos familles et prévenez les gens du désert des pluies. »
Il restait incrédule. « Mais d'après vous, il est probable qu'ils agissent cette nuit. Nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit. »
« Vous perdez du temps en dansant avec moi maintenant, » fit-elle remarquer avec aigreur. « Vous devriez déjà être dehors en train de passer le mot. Je crois qu'il va y avoir des incidents dans les rues ce soir. Des incendies, des bagarres. » Tous les moyens seront bons pour soulever des émeutes dans la ville. Les troubles vont se propager au navire dans le port. Quelqu'un, intentionnellement ou fortuitement, va fournir aux Calcèdes le prétexte pour attaquer. Peut-être vont-ils simplement recevoir un message les informant de l'assassinat du gouverneur.
Elle regarda sans ciller à travers le voile de Rain.
À l'aube, Terrilville sera en flammes.
La musique s'achevait. Ils ralentirent et s'arrêtèrent, ce qui lui parut prophétique. Il resta un moment silencieux, sans lâcher la main de la compagne. Puis, il s'écarta dans un salut.
Les autres se rassemblent dehors, dans les jardins. Nous devrions les rejoindre,
suggéra-t-il. Il fit un geste vers les portes.
Comme si on lui avait littéralement serré le cœur, il se retourna et regarda au fond de la salle. Malta, qui s'éloignait au bras de Serwin Trell. Il ne pouvait pas quitter ainsi la réunion sans un mot. Il se tourna vers la compagne Serille.
Juste après le porche, il y a une allée qui va vers l'est. Ce n'est pas loin et les lanternes l'éclairent ce soir. Pourrez-vous y aller seul? Je vous rejoins dès que possible.
Son regard disait clairement qu'il était d'une grossièreté impardonnable, mais elle déclara
« Cela ira, j'en suis sûr.
Vous pensez en avoir pour longtemps ?»«
J'espère que non, » assura-t-il.
Il n'attendit pas sa réaction à une réponse aussi vague. Il s'inclina à nouveau et la laissa près de la porte. La musique reprenait, mais il traversa rapidement la piste en évitant de justesse les couples de danseurs. Il trouva Malta assise, seule. Quand il se dressa devant elle, elle se leva précipitamment. En dépit de la lueur d'espoir qui venait de s'allumer dans son regard, on y lisait la peur.
« Reine !»
commença-t-elle, mais il l'interrompit avant qu'elle pût s'excuser.
« Je dois m'en aller. C'est très important. Je ne reviendrai peut-être pas ce soir. Il faut que vous compreniez. »«
Vous ne reviendrez pas ? Où allez-vous ? Qu'y a-t-il de si important ?»
« Je ne peux pas vous le dire. Il faut que vous ayez confiance en moi. »
Il marqua une pause.
« Je voudrais que vous rentriez chez vous dès que possible. Ferez-vous cela pour moi ?»«
Rentrer ? Quitter le bal et rentrer pendant que vous partez pour faire quelque chose de plus important ? Rain, c'est impossible. Le repas n'a pas commencé et on n'a pas offert les cadeaux. Rain, nous n'avons dansé qu'une seule fois. Comment pouvez-vous me faire ça ? J'ai attendu cette soirée toute ma vie, et maintenant vous me dites de rentrer chez moi immédiatement parce que vous avez trouvé quelque chose de plus important à faire ?
Malta, je vous en prie, il faut que vous compreniez. Je n'ai pas choisi. Le destin ne respecte pas nos désirs. Maintenant, il faut que je parte. Je suis désolé, mais il le faut. »
Il brûlait de tout lui dire. Ce n'était pas qu'il se méfiait d'elle, mais c'était les liens de sa famille avec Davad Restart qui l'inquiétaient. Si Davad était un traître, il était important qu'il ne se doute de rien. Ce que Malta ignorait, elle ne pouvait le trahir par mégarde.
Elle leva sur lui des yeux qui flamboyaient sinistrement.
« Je crois que je sais exactement ce qui est plus important que moi. Je vous souhaite bien du plaisir. »
Elle détourna le regard.
« Bonsoir, Rein Hupprus. »
Elle le congédiait comme un serviteur indocile. Il doutait qu'elle prît au sérieux son conseil de rentrer au plus vite. Il resta immobile, hésitant, au supplice. « Excusez-moi. » La bousculade était délibérée. Rain se retourna. Serwin Trell le regardait d'un air farouche. Il portait deux verres de vin. L'espace d'un instant, Rain faillit perdre sa maîtrise de soi. Puis quelque chose qui ressemblait au désespoir lui étreignit le cœur. Le temps pressait. Il pouvait rester et prolonger cette chamaillerie, mais non la dissiper. S'il restait, ils seraient peut-être tous morts au matin. Il se retourna et s'en alla. Le plus dur, c'était de savoir qu'ils seraient peut-être tous morts demain matin, quoi qu'il fît. Il ne regarda pas en arrière. Si Malta avait l'air accablée, il n'aurait pu s'empêcher de revenir vers elle. Si elle minaudait avec Trell, il aurait fallu le tuer. Pas le temps. Jamais le temps de vivre sa vie à lui. Il quitta la salle du conseil et plongea dans l'obscurité déchirée par les torches. Malta dansa encore trois fois avec Serwin. Il paraissait ne pas se douter le moins du monde qu'elle traînait les pieds. Après ces moments de grâce fluide dans les bras de Rain, danser avec Serwin lui faisait l'effet d'un effort laborieux. Elle n'arrivait pas à le suivre et elle manquait la mesure. Les compliments exaltés dont il l'abreuvait lui irritaient les nerfs comme une pierre ponce. Elle supportait à peine la vue de son visage enfantin et sérieux. Toute vie, toute beauté avait déserté ce bal. Le départ de Rain avait ramené la réunion à des proportions insignifiantes. Il lui sembla tout à coup qu'il y avait moins de monde sur la piste, moins de rires et de conversations dans la salle. La tristesse monta du fond de son âme et la submergea.
Elle se rappelait vaguement avoir été heureuse, un bref instant tout à l'heure. Mais le souvenir sonnait creux et faux. Alors que la musique s'achevait, elle fut soulagée de voir sa mère au bord de la piste qui lui faisait des signes discrets.
« Ma mère m'appelle, je dois y aller, malheureusement. »
Serwin s'écarta mais lui prit les mains. « Alors je vous laisse aller, mais seulement parce qu'il le faut, et je vous en prie, pour très peu de temps. »
Et il s'inclina gravement.
« Serwin Trell, »
répondit-elle, puis elle tourna les talons et le laissa. Le visage de Kefria était solennel. Quand sa fille s'approcha, son expression soucieuse ne changea pas, mais elle parvint à ébaucher un sourire en lui demandant
« Tu t'es bien amusé, Malta ?»
Que répondre à cela ?«
Pas comme je m'y attendais, »
déclara-t-elle avec honnêteté.
Je ne crois pas que la présentation se déroule jamais tout à fait comme on s'y attend.
Elle tendit la main vers sa fille.
Je regrette de devoir t'annoncer cela, mais je crois qu'on devrait partir bientôt. Partir ?
S'exclama Malta décontenancée.
Mais pourquoi ? Il y a encore le repas, la présentation des cadeaux et...
Chut ! Ordonna Kefria.
Malta, regarde autour de toi.
Dis-moi ce que tu vois. Elle jeta autour d'elle un coup d'œil hâtif, puis scruta la salle plus attentivement. Elle demanda à voix basse
« Où sont partis tous les marchands du désert des pluies ?»«
Je ne sais pas. Un certain nombre de marchands de Terrilville ont disparu aussi, sans explication ni adieu. Grand-mère et moi craignons qu'ils se préparent quelque chose.
Je suis sortie pour prendre un peu l'air et ça sentait la fumée. Le blocus du port a fait monter la tension en ville. Nous redoutons une émeute ou une explosion de violence. »
Kefria parcourut lentement la salle du regard en conservant son sourire calme comme si elle parlait du bal avec sa fille.
« Nous pensons que nous serons plus en sûreté à la maison. »« Mais... »
commença Malta, puis elle se ravisa. C'était inutile. La joie, la lumière avaient disparu de la fête, de toute façon. Rester ne ferait que prolonger l'agonie de son rêve.
« Si tu crois que ça vaut mieux... »
déclara-t-elle brusquement.
Je devrais peut-être aller dire au revoir à Dilo. Je crois que sa mère l'a déjà emmené. J'ai aperçu le marchand Trell qui parlait à son fils il y a un instant, et maintenant je ne vois plus Serwin. Ils comprendront.
Eh bien, moi pas,
répondit Malta avec aigreur. Sa mère secoua la tête.
Je suis désolée pour toi. C'est dur de te voir arriver à l'âge adulte dans ces temps troublés. J'ai l'impression que tu as été lésée, privée de tout ce qu'on avait rêvé. Mais je ne peux rien y changer.
Je connais cette impression,
dit Malta plus pour elle-même que pour sa mère.
Parfois je me sens complètement impuissante, comme si je ne pouvais rien faire pour modifier les choses. D'autres fois, je crains d'être simplement trop lâche pour essayer.
Kefria sourit franchement.
Lâche est bien le dernier mot que j'emploierais pour te qualifier,
dit-elle avec tendresse.
Comment allons-nous rentrer? La voiture de louage ne sera pas là avant des heures.
Grand-mère est en train de parler avec Davad Restart. Elle va lui demander si sa voiture peut nous ramener. Ce ne sera pas long. Elle sera de retour bien avant la fin prévue du bal.
Grand-mère les rejoignit d'un pas pressé.
Davad regrette de nous voir partir, mais il a accepté de nous prêter sa voiture.
Elle se rembrunit soudain.
Mais... il y a mis une condition. Il souhaite que Malta vienne dire au revoir au gouverneur avant de partir. Je lui ai dit que je trouvais cela inconvenant de se mettre ainsi en avant, mais il insiste. Nous n'avons pas le temps de discuter. Plus tôt on sera à la maison, mieux cela vaudra.
Bon, où est passé Selden?
Il était avec les garçons d'Ève il y a un instant. Je vais le chercher,
dit Kefria qui parut subitement lasse et tourmentée.
Malta, cela t'ennuie? Grand-mère sera avec toi, n'aie pas peur.
Malta se demanda soudain ce qu'elles avaient déduit de sa rencontre avec le gouverneur.
Je n'ai pas peur,
rétorqua-t-elle.
On se retrouve dehors? Je suppose. Je vais chercher Selden.
Alors qu'elle traversait la piste, Ronica déclara :
Je crois que nous allons organiser une réception dans une dizaine de jours. Les jeunes filles présentées cette année ne sont pas très nombreuses. Nous les inviterons toutes, n'est-ce pas?
Une réception? Chez nous?
fit Malta stupéfaite.
« Dans le jardin, je pense. Nous devrions pouvoir l'arranger comme il faut. Maintenant que les baies mûrissent, nous pourrions confectionner des tartelettes. De mon temps, les petites réceptions de ce genre avaient un thème. »
Grand-mère sourit.
« Ma mère en a donné une pour moi. Tout était violet ou lavande. Nous avons mangé des petites violettes en sucre, des gâteaux colorés en violet avec du jus de myrtille, et le thé était parfumé à la lavande. Le goût était détestable, mais l'idée était si charmante que cela m'était égal. »
Elle gloussa tout haut. Grand-mère essayait de la réconforter.
« Notre lavande fleurit bien cette année, »
releva Malta avec effort.
« Si nous faisons une réception à l'ancienne, alors personne ne remarquera nos vieilles nappes et napperons en dentelle, et le vieux service en porcelaine, peut-être ?»
Elle esquissa un sourire.
« Oh, Malta, tout ceci est si injuste pour toi, »
commença grand-mère.
« Menton haut, grand sourire, voilà Davad. »
Il fonçait vers elle comme un gros jard dans un poulailler. « Eh bien, je trouve ça tragique, tout simplement tragique d'emmener si vite une ravissante jeune fille comme ça. Elle a vraiment la migraine à ce point ?»«
Affreux !»
se hâta de répondre Malta.
Ainsi c'était la migraine, le prétexte invoqué par sa grand-mère. « Je ne suis pas habituée à me coucher si tard, vous savez, »
ajouta-t-elle suave.
« J'ai expliqué à grand-mère que je désirais vous souhaiter le bonsoir et vous remercier pour la voiture. Alors nous nous en irons. »«
Oh, ma pauvre petite cocotte, vous allez au moins dire au revoir au gouverneur. Du reste, je l'ai déjà prévenu que vous deviez partir et je vous accompagne auprès de lui. »
Voilà qui scellait son malheur. Pas moyen de s'en sortir avec grâce.
« Ça ira, je suppose, »
admit Malta faiblement. Elle posa la main sur le bras de Davad et il la conduisit jusqu'à la grande estrade, Ronica Westrit sur leurs talons.
« La voilà, gouverneur Magnadon !»
annonça Davad pompeusement avant que Malta ait repris son souffle. Il ne parut pas remarquer qu'il avait interrompu une conversation que le marchand d'Ève avait avec le gouverneur. Ce dernier tourna vers Malta un regard langoureux.
« Je vois !»
dit-il lentement. Il la détailla avec désinvolture.
« Quel dommage que vous deviez partir si tôt. Nous n'avons eu qu'une brève conversation, et sur un sujet si important. »
Malta ne sut que répondre. Elle avait plongé dans une profonde révérence au moment où le gouverneur avait daigné la remarquer. À présent, Davad lui prenait gauchement le bras pour la tirer sur ses pieds. Le geste la fit apparaître maladroite. Elle sentit le sang affluer à son visage.
« Vous n'allez pas lui souhaiter une bonne nuit ?»
s'exclama Davad comme s'il faisait la leçon à une enfant arriérée.
« Je vous souhaite une bonne nuit, gouverneur Magnadon. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur d'une danse. »
Voilà, c'était correct et respectueux. Alors, avant de s'interdire d'espérer, elle ajouta
« Et je prie pour que vous donniez rapidement suite à votre proposition d'envoyer du secours à mon père. »«
Je crains bien de n'être pas en mesure de le faire, délicieux enfant. Le marchand d'Ève m'apprend qu'il y a des troubles dans le port ce soir. Mes vaisseaux de patrouille vont sûrement devoir rester à Terrilville jusqu'au retour au calme. »
Avant que Malta se soit décidé à répondre, il se tournait vers Davad.
« Marchand Restart, voulez-vous appeler votre voiture ?»« Le marchand d'Ève pense qu'il est plus sûr que je quitte le bal. Je serais désolé de ne pas assister jusqu'à la fin à votre charmante petite fête, bien sûr, mais je vois que je ne suis pas le seul à préférer la prudence au divertissement. »
Son bras balaya la salle de bal d'un geste traînant. Malta regarda machinalement autour d'elle. La foule avait diminué considérablement, et nombre de ceux qui étaient restés discutaient en petits groupes inquiets. Seuls quelques jeunes couples dansaient encore, sans se douter apparemment le moins du monde de ce qui se passait. Davad eut l'air mal à l'aise.
« Je vous demande pardon, gouverneur Magnadon. Je viens de promettre ma voiture à la marchande Westrit et à sa famille, afin qu'elle rentre en sécurité chez elle. Mais elle reviendra vous prendre bien vite, je vous le promets. »
Le gouverneur se leva et s'étira comme un chat.
Ce ne sera pas nécessaire, marchand Restart.
Vous n'aviez tout de même pas l'intention de renvoyer ces femmes seules chez elles. Je vais les accompagner jusqu'à leur porte, afin de m'assurer qu'elles rentrent bien. Peut-être la jeune Malta et moi-même aurons-nous l'occasion de poursuivre notre conversation. »
Il la gratifia d'un sourire nonchalant. Ronica Westreet s'avança majestueusement dans un bruissement de jupe. Elle fit une profonde révérence qui exigeait presque une réaction du gouverneur. Au bout d'un instant, il hocha la tête vers elle d'un air irrité.
« Madame, »
fit-il d'une voix neutre. Elle se releva.
« Gouverneur Magnadon, je suis la grand-mère de Malta, Ronica Westreet. Nous serions honorés que vous nous rendiez visite, bien sûr, mais je crains que notre maison ne soit pas trop humble. Nous ne pourrions guère vous loger cette nuit, du moins pas avec le confort auquel vous êtes sans doute accoutumée. Naturellement, nous... »«
Chère madame, tout le but du voyage est de nous faire sortir de nos habitudes. » Je suis sûr que je trouverai votre maison confortable. Davad, vous veillerez à envoyer mes serviteurs là-bas, n'est-ce pas? Et mes malles et bagages. »
D'après le ton, il ne s'agissait pas d'une requête. Davad acquiesça en inclinant la tête.
« Certainement, seigneur Magnadon, et... »
Votre voiture nous attend dehors, sans doute. Prenez donc congé. Marchand d'Ève, apportez le châle de la compagne Keki et ma cape. »
Davad Restart risqua bravement une dernière tentative.
« Gouverneur Magnadon, je crains que nous soyons fort serrés dans la voiture. »
« Pas si vous montez sur le siège du cocher. La compagne Serille semble avoir disparu. Tant pis pour elle. Puisqu'elle ne s'occupe pas de moi comme elle le devrait, alors qu'elle en supporte les conséquences. Partons. »
À ces mots, il se leva, descendit de l'estrade et se dirigea vers les portes d'entrée. Davad le suivit à pas pressés comme une feuille dans le sillage d'un bateau. Malta échangea un regard avec sa grand-mère et elles lui emboîtèrent le pas.
« Qu'allons-nous faire ? »
chuchota Malta d'un air inquiet.
« Nous serons courtoises, »
affirma sa grand-mère.
« Sans plus, »
ajouta-t-elle d'une voix basse et menaçante. Au dehors, la nuit était douce et agréable. N'eût été une odeur marquée de fumée qu'apportait la brise. Le conseil n'avait pas de vue sur la ville elle-même. Il était impossible de savoir ce qui brûlait ni où, mais l'odeur seule donna le frisson à Malta. Les câbles et les châles furent apportés en toute hâte et la voiture arriva. Dédaignant sa compagne, le gouverneur prit le bras de Malta et l'aida à monter la première. Il la suivit et s'assit à côté d'elle. Il jeta un coup d'œil à Davad.
« Vous allez devoir monter sur le siège du cocher, marchand Davad. Autrement, nous serons beaucoup trop serrés. Ah oui, Keki, assieds-toi ici, à côté de moi. »
Ce qui laissait l'autre siège pour Ronica, Kefria et Selden. Malta se sentait coincée car le gouverneur se pressait contre elle de façon gênante, sa cuisse frôlant la sienne. Elle s'efforça de prendre un air détaché, croisa pudiquement les mains sur ses genoux et regarda par la vitre. Elle se sentit subitement recrue de fatigue. Elle ne désirait rien tant qu'être seule. La voiture tanga quand Davad grimpa laborieusement pour prendre place à côté du cocher. Il lui fallut un moment pour s'installer, puis le conducteur dit « U » à ses chevaux. La voiture s'ébranla en douceur, laissant derrière elle lumières et musique. Alors que l'obscurité se refermait autour d'eux et que les rumeurs du bal diminuaient, le cocher garda ses chevaux au pas. La nuit envahissait l'intérieur de la voiture, personne ne parlait. Le véhicule trop chargé grinçait amicalement en roulant sur les pavés. Ce n'était pas la paix, mais l'engourdissement qui s'abattait sur Malta. La joie, la vie étaient loin derrière à présent. Elle craignit de s'endormir. La compagne Keki rompit le silence.
« J'ai trouvé cette fête d'été très intéressante. Je suis ravi d'avoir pu y assister. »
Ces mots insipides restèrent en suspens. Tout à coup, Ronica s'exclama.
« Par ça, regardez le port !»
Il y avait une trouée entre les arbres qui bordaient la route. Sur le siège du haut, on entendit le cocher et Davad jurer, incrédule. Malta écarquilla les yeux.
Il semblait que le port tout entier était en flammes à cause des reflets dans l'eau qui les multipliaient. Ce n'était pas seulement un ou deux entrepôts. Tout le front de mer paraissait brûler, ainsi que plusieurs vaisseaux. Malta regardait, horrifiée, entendant à peine les exclamations et questions des autres. Elle ne le savait que trop. Seul le feu pouvait détruire une vive nef. Les Chalcédiens le savaient-ils aussi? Était-ce des vives nefs qui luttaient contre les flammes près de l'entrée du port, ou s'agissait-il des galères ou des vaisseaux qui avaient amené le gouverneur et sa suite? Mais ils ne firent qu'entrevoir et la distance était trop considérable pour avoir une certitude.
« Peut-être devrions-nous descendre là-bas pour nous rendre compte par nous-mêmes ?»
suggéra le gouverneur avec audace. Il haussa la voix.
« Cocher, on part !»«
Êtes-vous fou ?»
s'exclama Ronica, oubliant à qui elle s'adressait.
« Ce n'est pas la place de Malta ni de Selton. Ramenez-nous d'abord à la maison. Vous ferez ensuite comme bon vous semblera. »
Avant que le gouverneur ait pu répondre, la voiture fit une embardée alors que le cocher fouettait les chevaux. L'obscurité se refermait de nouveau autour d'eux. Ronica s'exclama.
« À quoi pense Davad d'aller à une telle allure dans le noir? Davad, Davad, que faites-vous ? »
Il n'y eut pas de réponse directe à sa question. Seulement des cris étouffés échangés sur le siège du cocher. Alors, Malta crut entendre une autre voix. Elle agrippa le rebord de la fenêtre et se pencha au dehors. Derrière eux, dans le noir, elle crut entrevoir quelque chose.
« Des cavaliers arrivent derrière nous au galop. Peut-être Davad essaie-t-il de leur laisser le passage ?»«
Ils doivent être ivres pour galoper ainsi la nuit sur cette route !»
s'exclama Kefria d'un ton dégoûté. Selden se mit debout sur le siège et essayait d'atteindre la fenêtre.
« Assieds-toi, Selden, tu marches sur ma robe »
fit-elle irritée. Tout à coup, le petit garçon fut projeté par terre alors que le cocher faisait claquer son fouet et que les chevaux s'élançaient brutalement en avant en donnant dans les harnais. La voiture se balançait fortement maintenant, les brinques balaient les uns contre les autres. S'ils n'avaient pas été aussi serrés, ils auraient glissé.
« Ne te penche pas à la portière !»
ordonna Kefria hors d'elle à Malta, tandis que Ronica hurlait.
« Davad, faites-le ralentir, Davad !»
Malta s'agrippait désespérément au rebord de la fenêtre pour éviter d'être ballottée et elle aperçut du mouvement dehors. Un cavalier s'était arrêté devant eux.
« Rendez-vous !»
commanda-t-il.
« Arrêtez, rendez-vous, et ne vous sera fait aucun mal !»«
Des brigands !»
s'exclama Keki, horrifié.
« À Terrilville ?»
rétorqua Ronica.
« Jamais de la vie !»
Pourtant, de l'autre côté de la voiture, il y avait un autre cavalier. Malta l'entrevit, puis elle entendit le cocher crier quelque chose. Il y eut un violent chaos et elle fut projetée contre la paroi alors que la voiture dérapait et penchait sur le côté. Un instant, le véhicule parut se redresser, puis il bascula brutalement sur l'autre flanc. Elle fut précipitée avec force contre le gouverneur qui s'étala sur la compagne Keki. Chose incroyable, elle tombait sur le côté, puis le toit de la voiture se retrouva sous elle. Une portière s'ouvrit brusquement. Elle entendit un hurlement terrible, puis elle vit un grand éclair de lumière blanche.
Davad est mort.
Ronica Vestrit prononça ces mots avec tant de calme qu'elle eut peine à reconnaître sa propre voix. Elle avait trébuché sur le corps dans l'obscurité en remontant à tâtons le talus escarpé et accidenté pour rejoindre la route. Elle savait qu'il s'agissait de Davad à cause des riches broderies de sa veste. Elle se félicita qu'il fasse trop noir pour qu'elle puisse distinguer son corps. La lourde et chaude immobilité, le sang poisseux était déjà assez accablant. Elle prit le pouls à sa gorge mais ne trouva que le sang. Pas le moindre souffle. D'après le dos de sa veste trempée de sang, elle déduisit qu'il s'était fracassé le crâne mais elle ne put se résoudre à le toucher à nouveau. Elle s'éloigna en rampant.
« Kefria, Malta, Selden !»
Elle criait comme une folle mais sa voix manquait de force. C'était incompréhensible. Au-dessus d'elle, elle apercevait la masse de la voiture et derrière, la lumière vacillante de torches. Il y avait des voix là-haut et des gens qui bougeaient dans l'obscurité. Peut-être s'agissait-il de ses enfants ? Le flanc de la colline était raide et broussailleux.
Elle ne se rappelait pas nettement comment elle était sortie de la voiture. Elle n'arrivait pas à comprendre comment elle avait pu se retrouver si loin. Avait-elle été éjectée? C'est alors que lui parvint la voix de Kefria. Elle gémissait.
« Maman! Maman !»
Elle appelait ainsi quand, petite fille, elle était tourmentée par des cauchemars.
« J'arrive !»
cria Ronica. Sa jupe s'accrocha à des buissons épineux et elle tomba. Tout son côté gauche brûlait comme si la peau avait été arrachée, mais ça irait aucune importance, elle oublierait, pardonnerait, si seulement elle retrouvait ses enfants. Elle retomba. Elle eut l'impression de mettre un temps infini à se relever. S'était-elle évanouie? Elle ne distinguait plus rien du tout maintenant, ni la voiture, ni la lumière vacillante. Avait-elle vraiment vu des gens bouger ou avait-elle rêvé? Elle tendit l'oreille. Là, un bruit, un couinement, une respiration ou un sanglot. Elle joua des pieds et des mains dans cette direction. Dans le noir, elle découvrit Kefria à tâtons. Le couinement, c'était bien ses sanglots. Elle poussa un cri quand Ronica la toucha, puis elle s'agrippa à sa mère sans un mot. Seldon était blotti sur ses genoux comme une petite boule. La tension de ses muscles indiqua à Ronica qu'il était vivant.
« Il est blessé ?»
Ce furent ses premiers mots à sa fille.
« Je ne sais pas, il ne parle pas, je n'ai pas vu de sang. Seldon, viens, viens voir grand-mère. »
Il ne lui résista pas, mais ne fit pas un geste. Elle palpa le corps du garçonnet. Pas de sang, il ne criait pas à son contact. Il se recroquevillait simplement et tremblait. Elle le rendit à Kefria. Par miracle, aucun d'entre eux ne paraissait gravement blessé. Kefria avait plusieurs doigts cassés, pour le reste, elle n'aurait su dire et Ronica ne voyait rien d'autre. La clarté de la lune et des étoiles ne filtrait pas à travers les arbres trop denses.
« Malta ?»
demanda enfin Ronica. Pas question de mentionner Davad devant Seldon.
« Je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai entendu les autres d'abord, alors j'ai appelé. J'ai cru t'entendre, mais tu n'es pas venu. Malta n'a pas répondu. Viens, retournons sur la route, elle y est peut-être. »
Dans le noir, elle sentit plus qu'elle ne vit Kefria hocher la tête.
« Aide-moi à apporter Seldon, » dit-elle.
Ronica durcit sa voix.
« Seldon, maman et moi, nous ne pouvons pas te porter. Tu es un grand garçon. » « Rappelle-toi comme tu as participé avec les sceaux le jour où les bateaux sont arrivés. Tu as été courageux alors. Maintenant, il faut aussi que tu sois courageux. Viens, attrape ma main, lève-toi. »
D'abord, il n'eut aucune réaction. Néanmoins, elle lui saisit la main et tira.
« Viens, Seldon, debout. Prends la main de ta mère. Tu es fort, tu peux nous aider à monter cette colline. »
Très lentement, l'enfant se déplia. Elles le prirent chacune par une main et le hissèrent jusqu'en haut du talus. Kefria portait sa main blessée contre sa poitrine. Elle ne parlait guère que pour encourager le petit garçon ou pour appeler Malta. Pas de réponse. Le bruit avait fait taire les oiseaux de nuit. C'était le silence. La voiture était renversée sur le flanc. Là, au bord de la route, les arbres étaient plus clairsemés et la lumière des étoiles filtrait jusqu'à leurs pieds, montrant en noir et blanc à Ronica la fin de son univers. Un cheval mort était encore empêtré dans les rênes. Entre la voiture et la route, des arbrisseaux étaient couchés et brisés. Elles cherchèrent autour de la voiture. Elles ne parlaient ni l'une ni l'autre. À tâtons, dans l'obscurité, elles cherchaient le corps de Malta. Au bout d'un moment, Kefria déclara « Elle est peut-être restée coincée à l'intérieur ?» La voiture gisait sur le côté, l'avant du toit penchait vers la pente escarpée. Les bottes du cocher pointaient en dessous. Ronica et Kefria les remarquèrent, mais ne dirent rien. Seldon en avait vu suffisamment pour ce soir. Il était inutile de lui montrer cela. Inutile qu'il se demande si le corps de Malta se trouvait aussi là-dessous. Ronica devina que le véhicule avait fait au moins 2 tonneaux avant de s'immobiliser. Il paraissait toujours instable.
« Fais attention !»
conseilla-t-elle à sa fille à voix basse.
« La voiture peut encore glisser. »« Je ferai attention !»
promit inutilement Kefria. Puis elle escalada lentement le châssis avec un hoquet de douleur quand sa main blessée dérapa. Elle s'allongea sur le flanc du véhicule et regarda par la fenêtre.
« Je ne vois rien »
cria-t-elle.
« Il faut que je rentre à l'intérieur !»
Ronica l'entendit s'acharner sur la portière. Elle parvint à l'ouvrir, puis elle s'assit un instant au bord de l'ouverture avant de se baisser pour ramper à l'intérieur. Elle poussa un cri aigu, horrifié.
« J'ai mis le pied sur elle !»
gémit Kefria.
« Oh, mon bébé, mon bébé !»
Le silence s'étira jusqu'aux étoiles. Puis elle se mit à sangloter.
« Oh, mère, elle respire. Elle est vivante. Malta est vivante !»